Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, jeudi, la marche des sciences par Aurélie Luneau.
Le langage est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est peut-être même la seule chose qui nous rend humains. C'est aussi la plus grande énigme de la science. Vous n'êtes pas d'accord ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui sera aujourd'hui une quête des origines du langage. Comme le disait le linguiste Derek Bickerton, professeur émérite à l'université d'Hawaï, le langage, qui est l'essence même de l'homme, reste un grand mystère. Y avait-il une seule langue à l'origine ? Et quelle langue ? Comment le système du langage a-t-il vu le jour ? Comment s'est-il complexifié ? Réussira-t-on un jour à reconstituer ce que fut la première langue ? Immatériel par nature, insaisissable, la langue suscite donc, vous l'aurez compris, beaucoup d'interrogations. N'y a-t-il pas là, monsieur Bickerton, l'une des questions les plus intrigantes et les plus importantes de la science actuelle, car le langage, au fond, est au cœur de tout.
Quel est selon vous le plus grand problème de la science ? Comment la vie est apparue ? Comment l'univers est apparu ? Savoir s'il existe une autre forme de vie intelligente quelque part dans l'univers ? Nous ne pourrions nous poser aucune de ces questions sans le langage. L'acquisition du langage par notre espèce est une question qui précède logiquement toute autre question scientifique. Car sans langage, il n'y aurait aucune question scientifique. Comment pourrions-nous accorder la moindre validité à une réponse si nous ne savons même pas par quel miracle nous nous sommes posé la question correspondante ?
Eh bien, c'est ce miracle de la langue, son histoire, les questionnements et les différentes thèses qui ont alimenté les travaux de recherche sur le langage dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, Jean-Louis Dessalles, enseignant-chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives à l'ENST. L'ENST, c'est l'école Télécom Paris Tech, et Bernard Victory, directeur de recherche au CNRS, tous les deux auteurs avec Pascal Pic d'un livre sur les origines du langage, un livre récemment paru aux éditions du Pommier. Et à mes côtés, vous venez de l'entendre, le comédien Olivier Cruveillé. Et puis, en seconde partie d'émission vers 14h48, pour poursuivre notre réflexion sur les langues, nous nous tournerons vers l'un des langages les plus modernes et qui n'aura de cesse, on s'en doute, d'évoluer dans le futur. C'est celui de l'informatique. À l'occasion de la sortie de nouveaux livres audio de la collection L'Académie raconte les sciences, une collection produite par les éditions De Vive Voix, eh bien nous recevrons l'académicien Gérard Berry, informaticien, directeur de recherche à l'INRIA et premier titulaire de la chaire d'informatique et sciences numériques du Collège de France. Il nous parlera de son livre audio qui porte sur la numérisation du monde. Mais pour l'heure, retour sur les origines du langage.
Le langage n'est pas aujourd'hui tel qu'il a toujours été. A-t-il même toujours été ? Qu'en sait-on ? Monsieur Vandriès, que pensez-vous des origines historiques du langage ?
Votre question m'embarrasse beaucoup. Savez-vous bien qu'en acceptant d'y répondre, je risque de me compromettre ?
Pourquoi ?
La Société de linguistique de Paris, fondée en 1866, a mis en tête de ses statuts qu'elle n'admettrait aucune communication sur l'origine du langage. Voilà bientôt 55 ans que je fais partie de cette société. Même, elle m'a fait l'honneur de m'élire comme secrétaire. Vous comprendrez qu'il me serait pénible d'encourir la réprobation de mes confrères.
Bonjour Jean-Louis Dessalles et bonjour Bernard Victory. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. On vient d'entendre une archive qui vous fait sourire, c'est vrai. Elle date du 9 mai 1951. On vient d'entendre un certain monsieur Vandriès, qui était donc ancien doyen à l'époque de la fac des lettres, mais aussi impliqué dans la Société linguistique de Paris. Et donc, il laissait entendre sur les antennes de la radiodiffusion française à l'époque que le sujet des origines linguistiques était quand même toujours tabou. Alors c'est vrai qu'on l'a compris, c'était inscrit dans les statuts depuis 1866 de cette société linguistique, inscrit que toute recherche sur les origines du langage était proscrite. Mais alors, à ce moment-là, à cette époque, dans les années 50, finalement, les linguistes travaillaient sur quoi ?
Ah ben les linguistes, Bernard Victory. Merci. Les linguistes travaillaient sur les langues et l'histoire des langues. Mais effectivement, Je vais les défendre un peu, ces linguistes qui ont
allez-y, mis cette interdiction. C'est votre communauté quand même.
Oui, tout à fait. Au moment où, justement, la linguistique s'affirmait comme une science, c'est-à-dire comme une discipline capable de dire des choses qu'elle était capable de démontrer. Mmh. Et un des grands succès de la linguistique à cette époque-là, ça a été de démontrer qu'un grand nombre de langues européennes étaient issues d'une même famille de langues, et donc issues d'une même proto-langue qu'on appelle le proto-indo-européen, qu'ils étaient en train de reconstruire, c'est-à-dire qu'ils étaient, de manière scientifique, en train de refaire naître une langue qui avait complètement disparu et de montrer comment cette langue-là avait évolué pour donner aussi bien le latin, le grec, le français, le russe,
l'allemand,
le sanskrit, etc. Donc toutes les langues indo-européennes. Donc à ce moment-là, les linguistes avaient besoin de travailler sur des choses qui soient rationnellement défendables, sur lesquelles on puisse effectivement avoir des argumentations qui se répondent, etc., pour avancer. Or, à la même époque, et de tout temps d'ailleurs, on avait des fous du langage, comme les appelle Marina Jagiello, qui sont des gens qui avaient des idées sur la manière dont les langues étaient apparues, des idées parfois complètement farfelues. Et c'est vrai que cette société jeune, scientifique, n'avait pas envie de passer son temps à discuter de savoir si l'origine du langage était dans les phases lunaires, dans le cri de telle ou telle bête, etc., etc. Donc voilà, je les défendrai.
Donc c'était un peu pour éviter de se fourvoyer peut-être. On s'en tenait donc à des faits bien établis, à l'étude de langues plus connues et donc notamment à la recherche de cette fameuse proto-langue.
Et d'une manière générale, on peut dire qu'effectivement, la question de l'origine du langage lui-même n'est pas une question linguistique. Les questions linguistiques commencent à se poser à partir du moment où il y a des langues. Mais l'émergence du langage, c'est-à-dire avant la première langue, ça n'est pas un problème qui intéresse la discipline linguistique. Elle peut intéresser les linguistes, mais pas au titre de leur discipline.
D'accord. En tout cas, c'est un intérêt qu'on a vu émerger avant le XXe siècle. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle. Est-ce qu'on peut dater de cette façon-là qu'avec l'émergence peut-être de la préhistoire, l'archéologie, l'anthropologie, l'ethnologie, que véritablement on a commencé quand même à se poser cette question de « mais y avait-il une langue originelle ?»
Ah ben ça, on se l'est posé depuis très 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 longtemps. Hein. On raconte toujours l'histoire de... Ben Jean-Louis Dessalles la connaît mieux que moi, du pharaon qui a essayé de savoir quelle était la première langue en faisant une expérience, hein, en mettant deux enfants isolés depuis leur naissance pour savoir quel allait être le premier mot qu'ils allaient prononcer. Tu racontes la suite peut-être, Jean-Louis ?
Jean-Louis Dessalles, allez-y, c'est votre histoire alors.
Alors, de mémoire, je crois que donc on raconte que l'histoire... Enfin, il y a deux versions, il y en a une qui dit que... En élevant des enfants en isolement total, les enfants ne développent aucune intelligence, voire périclite, meurent. L'autre version dit qu'ils avaient prononcé un mot qui voulait dire un mot phrygien, qui voulait dire pain, je crois que c'était béco. Et ils en ont déduit que le phrygien était la langue originelle et que toutes les autres en étaient déduites. Voilà. On voyait que la base expérimentale était quand même assez faible.
D'accord, mais on s'en inquiétait, en tout cas on se posait des questions, on s'interrogeait, mais scientifiquement, c'est véritablement le 19e siècle à ce moment-là qui voit émerger une tentative de compréhension. Oui.
Mais l'enjeu à l'époque était de savoir si la première langue était d'origine divine ou au contraire culturelle. Donc c'était un petit peu aussi ces antagonismes qui existaient. Ensuite, il y a eu ce tabou de la Société linguistique de Paris qui a arrangé un petit peu tout le monde. Ce qui est très, très étonnant pour nous, c'est que le tabou est resté, parce que le tabou officiel n'est resté qu'une dizaine d'années. Mais il y a une espèce d'autocensure de la communauté scientifique qui, je dirais, n'a été levée qu'en 1990, aussi tardivement que ça. Donc il a tenu un siècle, plus d'un siècle.
D'un siècle. En tout cas, on continue et on continue à s'interroger et puis à s'amuser parfois un petit peu avec cette possible langue venue d'ailleurs.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand je dis que Nassar Fonusnala, c'est nécessaire au flon. Plus d'une fois, quand on fait Nassar Punarive et Nassar qui finissent une joue totale complètement, ça n'a fait étoloïs et fouchisdat. Je l'en essaie bête et une fois la suscitite, et là, voilà, ça y est, c'est comme ça. Non, non. Il faut une autre façon de m'essayer d'un élite. La voix ne se parle ici, c'est côté délit. La soie n'essaie les chaussettes. Bien. Alors, une fois qu'on a ça, le front, c'est épidite. C'est évident que le sort, faut chasser des bottes de l'autre, voilà, demain. Non, ça ne fait pas possible. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Voilà.
Voilà, voilà, ça c'est compréhensible. Vous avez compris quelque chose ?
Non, non, mais Jean-Louis et moi n'aurions pas pu exprimer plus clairement tous les mystères de l'origine du langage.
Bon, en tout cas, on s'amuse un petit peu avec les possibles, tous les possibles des langues. Là, on vient d'entendre l'extrait de l'émission Panorama, l'extrait d'une des émissions de Jacques Duchâteau. Elle était datée, celle-ci, du 15 octobre 1981. Il recevait justement Marina Yagello et puis il parlait d'un livre de Noam Chomsky. On aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Mais tout ça pour vous poser une question. C'est quoi le langage articulé ? Comment on définit aussi mais la langue aussi par rapport à la parole ? Il ne faut pas confondre, je crois. Bernard Victory.
Alors, le langage d'abord, la langue, puis la parole. Le langage, c'est le système de communication de notre espèce. Hein, on peut le définir comme ça. Ce qui le caractérise, c'est des choses extrêmement, je vais rester extrêmement simple, ce qui le caractérise, c'est que ça passe par, effectivement, des conventions entre des sons et des sens, conventions qui n'ont jamais été décidées de manière consciente par les humains, mais qu'ils se sont imposés dans leur communication et qui font qu'à tout moment, un individu pour appartenir à l'espèce humaine doit posséder au moins un de ces systèmes de communication, donc un ces systèmes de correspondance entre son et sens que l'on va appeler une langue. Alors, quand je dis qu'il la possède, ça veut dire qu'effectivement, il la maîtrise, il est capable de produire des énoncés de cette langue et de comprendre les énoncés de cette langue. Mmh. Alors, ce qu'il produit et ce qu'il comprend, ça, c'est de la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est finalement la production de ce système interne que l'on appelle la langue. Alors, ce système interne, il est partagé par des individus, donc vous voyez que c'est déjà pas simple. C'est un système qui se trouve à l'intérieur de notre propre cerveau, qui nous fait dire que telle phrase c'est du français ou telle phrase ça n'est pas du français. Et en même temps, pour que ça soit du français, il faut que tous les Français soient d'accord sur le fait que ça fait partie du système de leur langue. Donc vous voyez qu'il y a déjà une relation entre l'individu et le social qui est à l'œuvre, y compris même dans la définition de ce qu'est le langage.
Jean-Louis Dessalles.
Il y a des mystères dans la parole, il y a des mystères dans la langue. Et le plus grand mystère qui, je crois, nous a retenu lorsqu'on a écrit ce livre, c'était le mystère derrière le langage, c'est-à-dire ce qui est propre à notre espèce et qui fait que nous sommes différents, de ce point de vue-là, de toutes les autres espèces. C'est-à-dire que non seulement nous utilisons le langage, mais nous l'utilisons beaucoup. Pour vous donner une idée, chaque jour, un être humain prononce quelque 15 000 mots. Là, on est dans la quantité. 15 000 mots.
Différents.
Ah, pas différents, non. On emploie souvent les mêmes mots grammaticaux, les mêmes articles. On épuiserait vite le stock, même si notre stock de mots qu'on est capable de comprendre et de quelque chose avec les phrases toutes faites, etc., on arrive à 100 000 formes qu'on comprend. Couramment, on utilise à peine quelques milliers, 5 000 différents. Mais chaque jour, on en prononce 15 000. Plus de 15 000, qui évidemment ne sont pas différents, on se répète. Et ça nous prend environ un tiers du temps éveillé. Hein, d'accord ? Donc en fait, quand on s'intéresse au langage et à son explication, il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi on parle, mais pourquoi on parle autant. Pourquoi l'être humain est si bavard, par contraste avec les autres primates qui sont quand même, en comparaison avec nous, sacrément taciturnes.
Et alors donc, autre question, pour justement bien comprendre dans quelle situation on se trouve, il existe combien de langues aujourd'hui dans le monde ?
Alors,
difficile à estimer, parce que est-ce qu'on parle des langues ? Est-ce qu'on associe les dialectes, le créole ?
En tout cas, l'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliers, 5 000 langues, quelque chose comme ça. Mais comme vous le dites, effectivement, tout dépend de ce qu'on appelle une langue. Est-ce que telle ou telle variante, par exemple le chinois, est considéré comme une langue alors qu'il y a des différences entre le pékinois et le hongkongais. Il est évident que, par contre, on dit que certaines langues romanes pourraient être rassemblées en une seule langue alors qu'on considère que c'est une langue différente. Donc il y a un côté arbitraire à définir ce qu'est exactement une langue par rapport à un dialecte. Donc voilà, on peut donner qu'une vue d'ensemble comme ça, 5 000.
En tout cas, à partir du moment où on a avancé les travaux, archéologiques, à partir du moment où on va dater, par exemple, les premiers fossiles humains, les linguistes, notamment, vont aussi rentrer dans cette danse, parce qu'on va s'apercevoir du fossé, hein, assez rapidement, entre les plus anciennes langues connues. Et puis les plus lointains ancêtres. Et c'est à partir de là qu'on va partir à la quête peut-être d'une possible langue mère. Alors la difficulté des linguistes, c'est quand même que les paroles s'envolent, on n'a pas de traces. Comment on travaille ?
Tout à fait. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi que maintenant, la question d'origine du langage est revenue à l'ordre du jour et qu'elle est étudiée par des tas de disciplines différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Ces entreprises-là, ce ne sont pas des entreprises dans lesquelles on veut démontrer quelque chose. La vérité est très difficile à atteindre. On n'est pas dans des domaines scientifiques classiques dans lesquels on va pouvoir faire une expérience pour vérifier que la théorie que l'on a est bonne. On ne peut pas vérifier, on ne peut pas se remettre dans les conditions où le langage n'existerait pas pour le refaire. Donc on est dans des domaines très conjecturaux. Mais dans ces domaines conjecturaux, ce qui est intéressant, c'est que l'apport de différentes disciplines permet de contraindre tout scénario d'origine de façon de plus en plus précise. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que l'évolution depuis les premiers hominidés jusqu'à aujourd'hui a duré quelques 4 millions d'années. On sait qu'il y a eu au moins deux étapes extrêmement importantes. Une étape il y a de l'ordre de 1 million d'années, hein, avec Homo erectus, donc un de ces petits hominidés qui était en Afrique et qui s'est répandu sur toute la planète, enfin tout l'ancien monde en tout cas. Donc un grand succès évolutif de cet Homo erectus par rapport aux autres hominidés. Première étape, 1 million d'années. Deuxième étape, notre espèce, qu'on appelait Homo sapiens sapiens. Notre espèce, donc, là encore, on a de plus en plus la certitude que cette espèce est née il y a, disons, de l'ordre de 100 000 ans, 100 000, 200 000 ans, en Afrique, un petit groupe d'individus qui s'est à nouveau répandu sur toute la planète. Donc, voilà, vous voyez, une fois que cette scène est mise cette scène historique est mise sur pied, évidemment, on se pose la question de savoir, mais alors, jusqu'où doit-on remonter pour essayer d'arriver à la première langue? Et on s'aperçoit qu'effectivement, il faudrait remonter au moins de 50 000 ans, et que jusqu'à présent, avec les méthodes dont je vous parlais, sur l'indo-européen, etc., on était capable de remonter que jusqu'à 6, 8 000 ans. Alors peut-être qu'effectivement, en accentuant, hein, grâce à la génétique des populations, grâce à d'autres histoires des hommes, on pourrait remonter jusqu'à 10, 15 000 ans, mais pas plus. Donc, de fait, c'est peut-être malheureux, mais je pense qu'avec les connaissances actuelles et on ne voit pas très bien ce qui pourrait changer, on n'arrivera jamais à reconstruire la première langue s'il y en a une.
Alors voilà l'exemple même de cette langue mère que des cinéastes tentent parfois de rendre visible et audible sur grand écran au cinéma, comme par exemple là cet extrait choisi par Pascal Rayet dans le film La guerre du feu, donc le film de Jean-Jacques Hano qui était sorti au cinéma en 1981. Et je crois qu'à l'époque il avait travaillé avec des linguistes. Alors est-ce que l'un et ou l'autre, Bernard Victory et Jean-Louis Dessalles, est-ce que vous avez été sollicité à un moment, justement, soit pour des documentaires, des films, pour essayer quand même de rendre une possible langue mère ou langue d'Homo sapiens, Homo erectus, ou en tout cas de ces premiers hommes?
Oui, Jean-Louis Dessalles. J'avais été un petit peu approché pour essayer d'imaginer ce que pouvait être la façon de s'exprimer, par exemple, de Néandertal ou d'Homo erectus, dans le cadre de la série sur l'Odyssée de l'espèce. Et la réponse, c'est qu'on est obligé de faire de la paléofiction, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais on peut s'amuser à ce moment-là. Mais il y a quand même des données sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est que, en ce qui concerne notre espèce, donc Homo sapiens, on n'a pas d'indice qui nous montre qu'il y a un progrès dans les langues, c'est-à-dire que toutes les langues ont une égale complexité. Et c'est même très très surprenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation connue entre la complexité des langues et le degré d'acculturation, la complexité, si tant est qu'on puisse la mesurer, de la culture technique que les cultures ont. Donc l'extrapolation est facile à faire, c'est que les langues qui ont été parlées par notre espèce ont toujours eu la même complexité. Donc si la guerre du feu met en scène, comme c'était le cas dans cet extrait, un homo sapiens, ou une homo sapiens en l'occurrence, il est correct de la faire parler une langue avec, qui aurait la même complexité que le français, ou le chinois, ou le japonais. En revanche, si on s'intéresse à Néandertal, par exemple, alors là, là, on est obligé de s'amuser et de faire du roman, parce qu'il avait un gros cerveau, aussi gros que le nôtre. On peut penser que ce cerveau lui servait, comme le nôtre, au langage essentiellement. Et l'ancêtre commun, en revanche, est beaucoup trop vieux. L'ancêtre commun entre nous et Néandertal, c'est 500 000 ans. Donc on n'a pas envie de dire qu'il y a 500 000 ans, les gens parlaient comme nous. Alors là, là, c'est un peu trop. Et donc, on peut penser qu'ils ont eu une évolution différente, séparée. Et il me tarde, enfin, je plaisante là, il me tarde qu'on ait cloné des Néandertals. Actuellement, c'est absolument impensable, mais on a été habitué par la biologie à penser l'impensable. À mon avis, dans un avenir possible, on clonera des Néandertals. Et il y a des gens qui le feront, même si c'est... Bon, ça fait terriblement peur, mais des gens s'amuseront à le faire. Et là, on pourra faire l'expérience du pharaon de tout à l'heure, pour mettre, cloner plusieurs Néandertals, les mettre ensemble et voir comment ils communiquent.
Et quelle langue émerge de
voilà. Et on aura des surprises. C'est-à-dire que leur système, là je m'amuse un petit peu, mais leur système de communication pourrait très bien ne pas être traduisible en langue humaine. C'est-à-dire que ces gens-là, nous les trouverons un petit peu idiots et ça sera réciproque. Ils nous trouveront idiots. C'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de raisonner comme eux, sans doute. Mais là, encore une fois, je m'amuse.
C'est vrai que c'est la réciproque qu'on a souvent du mal à imaginer. Bernard Victory, là, c'est vrai qu'en entendant les propos de Jean-Louis Dessalles, moi, je pense au film de Jacques Malaterre, qui est sorti justement au cinéma à la rentrée, donc en septembre-octobre 2010, avec là aussi une langue proposée sur les écrans et que l'on pouvait donc découvrir. En même temps, Néandertal était, dit-on, beaucoup plus évolué, plus intelligent qu'on ne l'a cru pendant des années, et donc les recherches scientifiques le montrent aujourd'hui, mais il a complètement disparu. Donc s'il était porteur d'une langue, là c'est un énorme point d'interrogation, c'est comment Néandertal justement a pu disparaître, ne pas laisser de descendants. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment il y a une langue qui prend le pas sur une autre, les langues disparaissent, aujourd'hui encore d'ailleurs, il y a beaucoup de langues qui disparaissent.
Oui, alors, il ne faut pas confondre. Hein, la disparition des langues d'aujourd'hui et des langues en général au cours de l'histoire de l'humanité, c'est un phénomène normal. Hein, il y a une évolution et donc des langues naissent à partir de langues anciennes qu'on appelle mortes. Mais on ne peut pas dire que le latin est mort. Il est toujours vivant à travers le français, le roumain, etc. Donc, il ne faut pas confondre ce problème-là avec le problème d'une espèce entière, Néandertal, qui a disparu. Et ce n'est pas la seule. Il y a d'autres homo sapiens archaïques, comme on les appelle, qui étaient un peu partout en Asie et qui ont disparu. Et donc, effectivement, non seulement leur langue a disparu, mais leur langage, c'est-à-dire leur système de communication entier, on n'a aucune idée de ce qu'il est. Alors Jean-Louis, propose l'hypothèse suivant laquelle ils auraient un système aussi complexe que le nôtre et non intertraduisible. C'est une hypothèse tout à fait plausible. Il y en a une autre, c'est celle justement que défendrait peut-être plutôt Derek Bickerton, dont on parlait au début de l'émission, qui serait que, effectivement, toutes ces espèces qui nous ont précédés et qui ont coexisté en partie avec nous n'auraient pas eu un langage d'une telle complexité et auraient développé ce qu'on appelle le proto-langage, à ne pas confondre avec les proto-langues de tout à l'heure, le proto-langage qui serait donc un système de communication beaucoup plus simple dans lequel on a un lexique, c'est-à-dire on a une catégorisation des objets du monde hein, et des personnes, etc. Donc on a un lexique, on a un vocabulaire, mais on n'a pas d'outils grammaticaux.
D'accord, donc un lexique qui sert à désigner les choses.
Qui sert à désigner les choses et que l'on peut regrouper dans des phrases pour dire des choses du genre « moi, manger lapin », par exemple. Mais vous voyez, sous cette forme, on appelle souvent le langage Tarzan, etc. D'accord. Sous une forme dans laquelle on n'a pas de grammaire, mais comme on désigne des choses dans une situation donnée, ici et maintenant, en fonction de ce qu'on fait, etc., énoncer quelques mots suffit à faire comprendre ce qu'on veut dire, à donner une information importante sur ce qu'il faut faire, à chasser ensemble, à avoir des activités sociales rudimentaires, mais c'est suffisant.
Donc un proto-langage qui ensuite est amené à évoluer avec justement une complexification du langage, une grammaire, et donc là on arrive à ce qu'on appelle le langage.
Voilà, et donc si on admet cette hypothèse, le mystère, l'énigme du langage se devient deux énigmes. Première énigme, pourquoi est-ce que les humains se sont mis à se transmettre de l'information avec ce proto-langage, donc de façon simple, mais en tout cas transmettre beaucoup, beaucoup d'informations entre eux. Et sans doute, c'est une des raisons du succès évolutif d'Homo erectus, de la complexification de son cerveau, etc. Et puis la deuxième énigme, c'est pourquoi est-ce qu'on passe de ce proto-langage à nos langues, qui, elles, ont des spécificités assez, assez étonnantes, extraordinaires, qui restent aujourd'hui très, très mystérieuses.
Alors, on sent à travers vos paroles, Bernard Victory et Jean-Louis Dessalles, on sent qu'on est dans un univers donc, avec des travaux, des recherches de linguistes, mais qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Il y a notamment, si j'ai bien lu donc dans l'ouvrage que vous avez écrit aux éditions du Pommier, les origines du langage, qu'on a mis ces langues possibles dans des familles. On a fait des familles de langues pour essayer justement de remonter à un moment à la langue mère, si possible. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Quelle est votre position précisément à vous ? Alors, Bernard Victory, vous êtes désigné d'office apparemment.
D'accord. Eh bien, à vrai dire, la situation chez les linguistes était à peu près unanime sur le fait qu'on ne pourrait pas remonter au-delà de, mettons, même si on doublait les temps qu'on a réussi à remonter jusqu'à présent, à savoir 6000 ans, on ne pouvait pas doubler, peut-être tripler, mais donc pas plus de 18000 ans, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, est totalement insuffisant pour remonter à la langue mère. Il se trouve qu'un linguiste, Mary Trullen, a mis un pavé dans la mare en publiant un livre qui était très populaire, dans lequel il disait « Mais ces linguistes sont des timorés. Moi, regardez, je regarde le lexique de toutes les langues du monde et je m'aperçois qu'il est très facile de retrouver des racines communes. » Bon.
Ça, c'était dans les années 80 ?
90. Ouais. Et c'est un coup de pub formidable, mais en fait, quand on décortique le livre, on n'a pas le temps de le faire ici, mais quand on décortique le livre en détail, on s'aperçoit que c'est fondé sur une série d'hypothèses mal travaillées et que, en fait, les mots qu'il nous propose pour la langue mère ont autant de chances d'être les premiers mots que ceux qu'on a entendus dans l'extrait de la guerre du feu de tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment rien derrière ça. Non, désolé, la langue mère, je pense qu'on n'arrivera pas à la reconstruire.
Donc elle serait définitivement perdue, mais ce qui n'empêche pas quand même aujourd'hui de continuer à travailler avec les moyens d'autres sciences comme la physiologie, la neurologie, la paléoanthropologie, pour essayer de comprendre malgré tout comment ces êtres anciens, et puis l'ancêtre commun peut-être, parvenaient à s'exprimer, s'ils pouvaient s'exprimer, puisqu'on a quand même évoqué le fait qu'il fallait que le pharynx soit plus élevé ou plus plus abaissé, voilà, c'est ça. Et donc bon, c'est pareil, cette théorie a été dite à un moment, remise en cause. On travaille toujours aujourd'hui quand même pour essayer malgré tout de au moins comprendre le fonctionnement, peut-être pas reconstituer cette langue, mais comprendre comment il pouvait s'exprimer. Jean-Louis Dessalles.
Alors il y a deux questions distinctes, c'est le pourquoi et le comment. Et pendant longtemps, le pourquoi a semblé évident, donc on s'est concentré sur le comment. Le comment, c'est à quel moment le pharynx est descendu, à quel moment on a eu telle circonvolution supplémentaire dans la partie gauche du cortex, etc., nous permettant de manipuler la syntaxe. Et pourquoi a-t-on délaissé la question du pourquoi ? Parce qu'elle semblait évidente à tout le monde. Tout à l'heure, avec Bernard, nous avons insisté sur le mot énigme. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, le langage n'était absolument pas une énigme. C'est-à-dire que le langage est un bienfait absolu. Si les animaux ne parlent pas, c'est tantôt parce qu'ils n'ont pas un cerveau assez gros, tantôt parce qu'ils ont un pharynx trop haut qui les gêne pour prononcer des sons, etc. Et les êtres humains, Homo sapiens, se situaient au centre d'une espèce de nirvana évolutif dans lequel, évidemment, il était bon d'avoir le langage. Et à ce moment-là, la seule question qui restait, c'était de savoir comment c'était arrivé, à quel moment, etc. Et ce qui est nouveau dans les années récentes, c'est de dire, attendez, C'est absolument pas évident de dire qu'il est bon de parler. La preuve, c'est que si on est la seule espèce à le faire, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans notre niche écologique qui n'existe dans aucune autre, aucune autre espèce de primate. Donc la question, c'est qu'est-ce qui pousse les individus à être aussi bavards, comme on disait tout à l'heure. Et en se plaçant, donc on a parlé de différents cadres scientifiques, il y en a un qui est très important, c'est le cadre darwinien. Dès qu'on parle d'évolution, il faut se demander en quoi le fait de parler est avantageux pour celui qui parle. Et on s'aperçoit que pendant très longtemps, on a évacué cette question parce qu'on a dit « mais parler, c'est très très avantageux ». Oui, mais pour qui ? Pour celui qui écoute, celui qui prend les informations et qui les empoche et qui s'en sert. Mais personne n'a pensé pendant des années, même des décennies, à se demander la vraie question darwinienne, c'est qu'est-ce qui pousse les individus à les donner, ces informations ? Donc nous sommes à la fois, nous ne sommes pas seulement auditeurs, nous sommes aussi locuteurs. Et non seulement nous le faisons, mais nous le faisons abondamment. Nous sommes une espèce, mais terriblement bavarde.
Vous disiez 15 000 mots par jour.
15 000 mots par jour.
Utilisés.
Voilà, donc comment cela peut-il favoriser celui qui parle et pas seulement celui qui écoute ? Voilà la vraie question, la vraie énigme. Et une fois qu'on aura résolu ça, on aura plein d'idées sur le comment. Mais vous voyez, il y a une question de priorité des deux questions.
On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. En tout cas, sur ces, on a dit, 5 à 6 000 langues différentes, il y a aussi des identités nationales, un attachement à la langue et à la culture, avec parfois des débats politiques qui ont pu déclencher des interrogations et virer même, on peut le dire, à la comédie, alors en guise d'intermède. On vous propose cette composition sonore et musicale avec Pascal Raillet. Retour sur un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, le fameux « volapuc » remis sur le devant de la scène par le général de Gaulle. C'était lors d'une de ses conférences de presse le 15 mai 1962. Une conférence de presse à propos de l'Europe et de la construction européenne. Et ce sera suivi d'un micro-trottoir réalisé peu après.
Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés.
Qu'est-ce que c'est que le volapuc ?
C'est une danse.
Une danse ?
Oui.
De quel genre de danse ?
Anglais, parce que...
Ah.
Genre un peu excentrique, quoi.
Ah oui, et c'est quoi ?
Madison, comment vous... le volapuc ?
Oui.
C'est un vol d'oiseau ?
Non, rien. C'est du javanais, vous savez.
Hein ?
C'est du javanais, non ?
Un genre d'argot ?
Volapuc. V-O-L-A-P-U-C, certainement.
Avec un K au bout.
Avec un K, ah bah là, c'est encore plus compliqué. Là.
C'est un sujet à l'aviation ?
Je sais pas, moi. Je sais même pas ce que c'est. Mon portin, je connais tout.
Il est 14h33. Vous êtes bien sur France Culture en direct du studio 167 et c'est la suite de la Marche des sciences avec pour thème aujourd'hui les origines du langage, un sujet choisi à l'occasion de la sortie d'un livre, du même titre d'ailleurs, Les origines du langage, un ouvrage signé Jean-Louis Dessalles, enseignant-chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives à l'UNST et Bernard Victory, directeur de recherche au CNRS, tous les deux en studio avec nous et donc c'est un ouvrage qu'ils ont écrit avec Pascal Pic, il faut pas l'oublier, le livre paru aux éditions du Pommier, sujet ô combien passionnant, intrigant, déroutant, intéressant. On l'entend là, un tout autre univers, messieurs, évoqué donc à la fois l'espéranto et le volapuc, ces langues qui, là, on n'est plus dans la langue mère, on est dans l'invention de langues exprimées peut-être par une nécessité à un moment ou l'illusion, la possibilité de pouvoir tous parler la même langue. Bernard
oui,
Victory.
C'est tout à fait compréhensible d'ailleurs que les humains cherchent à faire passer leur, leurs espérances politiques par l'action sur la langue. Pourquoi ? Parce que la langue, comme on l'a dit, est vraiment au cœur de toute l'organisation de la société humaine. Nous baignons dans un univers qui est entièrement langagier. On est obligé en permanence de raconter pourquoi, comment, d'où on vient, etc. Et il est clair que l'idée que l'on puisse façonner soi-même sa langue est une idée d'avoir un besoin de maîtrise de l'univers, de maîtrise de la société humaine, qui est tout à fait compréhensible. Malheureusement, je pense qu'on va avoir du mal, parce que la langue est en même temps, effectivement, un processus, l'organisation du système de la langue est un processus qui échappe à l'individu. Il doit baigner dans la langue avant même d'apprendre à s'exprimer dans cette langue. Donc il la modifie un peu, chaque individu la bouge, la langue, les langues évoluent, mais elles n'évoluent pas de par la conscience humaine. Donc elles échappent à cette capacité de maîtrise qu'on aimerait avoir sur elles.
Et d'ailleurs, il faut préciser que ces deux langues, hein, l'espéranto et le volapük, avaient été inventées au 19e siècle, donc dans cette idée de pouvoir entrer en communication plus facilement avec tous les habitants du monde. L'espéranto, d'ailleurs, qui avait été validé, si je ne m'abuse, par l'UNESCO. Je ne sais pas ce qu'il en est, d'ailleurs. On parle encore un petit peu volapük, je ne sais pas, l'espéranto.
Vous avez une version de Wikipédia qui est en espéranto. Vous pouvez, pour beaucoup d'articles ont été traduits en espéranto. Donc, c'est une langue qui vit avec une communauté de locuteurs qui se rencontrent régulièrement. En revanche, je ne suis pas certain qu'ils élèvent leurs enfants en espéranto. Mais il y en a peut-être qui le font. Mais cette question nous renvoie à une autre qui est de savoir pourquoi il n'y a pas une seule langue dans l'humanité. Donc c'est cette nécessité de vouloir la créer, c'est que précisément nous avons des milliers de langues et pas une seule. Donc si le langage existait pour le bien-être collectif, on aurait une seule langue, mais ce n'est pas le cas. Et ça aussi, cette question est souvent évacuée, mais c'est une question, ça fait partie des questions qu'un enfant pourrait poser, pourquoi il n'y a-t-il pas une seule langue ? Et on ne sait pas très bien répondre, en tout cas, mais en fait, une raison immédiate, c'est que les langues sont apprises. Donc, pourquoi apprend-on ? Pourquoi l'enfant doit-il apprendre sa langue ? Et pourquoi, d'une communauté à l'autre, le lexique, déjà, va changer énormément ? Eh bien, ça nous renvoie à ce que nous faisons avec la langue. Notamment, Bernard y a fait allusion, le fait que nous racontons des histoires, nous racontons beaucoup d'histoires, c'est à peu près un tiers de notre temps de parole, raconter des histoires sur ce qui s'est passé. Et pour que ces histoires soient intéressantes, il faut qu'elles soient originales. Et si elles sont originales, on a besoin... Ce qui est original en France n'est pas forcément original en Allemagne ou en Italie, comme dirait le général. Donc, il nous faut un lexique, des mots pour désigner ce qui est original localement. Et ce qui est intéressant.
Et porter une culture aussi, qui peut être spécifique.
Alors, le résultat, c'est que cela porte une culture. Voilà. C'est un résultat. Ce n'est pas volontaire. Ce qui est volontaire de la part des gens, c'est de nommer ce qui est rare, ce qui est inhabituel. Et pour cela, il faut des mots qui sont rares et qui ont une valeur locale.
Et puisque vous parlez justement de cette diversité aussi du patrimoine langagier et puis culturel en fonction des langues, moi j'ai relevé une recherche récente sur les bébés. Les bébés pleureraient dans leur langue maternelle, d'après une étude menée par deux chercheurs, Kathleen Wermke de l'Université de Würzburg en Allemagne et Anne-Christophe du Labo de sciences cognitives et psycholinguistiques de l'École normale supérieure de Paris. Vous aviez entendu parler de cette étude peut-être. En tout cas, en analysant les différences de cris entre des bébés français et des bébés allemands, ils se sont rendus compte que l'intensité des cris variait, elle était plutôt accentuée sur telle partie de la phrase et pas telle autre en français et en allemand, et d'où les différences d'intonation propres à chaque langue. Donc les bébés pleurent dans leur langue maternelle.
Ça, c'est le déplacement de l'intonation de phrase qui avait l'air d'être caractéristique du français et de l'allemand dans les pleurs des tout petits bébés, c'est-à-dire de quelques semaines. Ce qui prouve, alors après la raison, personne ne pense qu'on est français ou on est allemand. On le devient en revanche très tôt, peut-être même avant la naissance, quand on est encore dans le ventre de sa mère. Ou peut-être pendant les premiers jours, les premières semaines, c'est sans doute ces caractéristiques acoustiques de la phrase que l'enfant attrape en premier. Et ce que l'enfant finit par attraper dans les premières années de sa vie est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire qu'un enfant de 3-4 ans a une expression linguistique qui n'est pas encore celle d'un adulte, mais qui s'en rapproche dangereusement. Et on se borne actuellement à le constater et à trouver ça miraculeux. Mais quand avec des ordinateurs, on essaie de faire la même chose, plus ça va, plus on s'aperçoit du miracle que représente chaque enfant.
Alors poursuivons notre aventure aujourd'hui dans cette histoire des origines du langage. Toujours à nos côtés, le comédien Olivier Cruveillé, lui-même d'ailleurs plongé dans cette histoire des langues, puisqu'il prépare en ce moment avec Denis Podalydès de la Comédie Française des lectures de textes sur le langage. Ce sera à l'Odéon le 24 janvier à 20h, Olivier.
Oui, le Babil des classes dangereuses de Valère Novarina, son premier texte qu'il a sorti, exhumé de sa machine à écrire de l'époque.
Voilà. Eh bien, tout de suite, en tout cas, en scène, pour continuer la marche des sciences, un autre extrait d'un texte de Nancy Houston, très intéressant, intitulé « L'espèce fabulatrice », paru chez Actes Sud en 2008.
Récapitulons. Aux bonobos, aux chimpanzés, la réalité suffit. Ils en font sens. Aux humains, non. Il leur faut un au-delà de la réalité, un en plus ou un ailleurs, un au-dessus ou un au-dessous, le sens. Les singes tiennent compte de l'alternance du jour et de la nuit. Seuls les humains l'interprètent. Ils disent, par exemple, Apollon ou la grande tortue ou Ra, le dieu soleil, ou notre Seigneur dans son infinie miséricorde. Ils disent toutes sortes de choses, racontent toutes sortes d'histoires, inventent toutes sortes de chimères. C'est ainsi que nous, les humains, voyons le monde en l'interprétant, c'est-à-dire en l'inventant, car nous sommes fragiles, nettement plus fragiles que les autres grands primates. Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle, sans l'imagination qui confère au réel un sens qu'il ne possède pas en lui-même, nous aurions déjà disparu, comme ont disparu les dinosaures.
Alors là est clairement posé le problème, la question de cette différence entre l'homme et les singes, le langage et l'interprétation d'un côté, et avec la communication de l'autre, parce qu'il y a aussi des modes de communication langagière chez les singes. Mais c'est vrai que la plupart des travaux des scientifiques ont quand même porté sur la lignée humaine. Alors Bernard Victory, il y a cette différence qui est due à quoi ?
Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les systèmes de communication animaux ne sont pas si faciles que ça à étudier. Hein, et ce n'est que relativement récemment que les éthologues ont commencé à comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. D'autre part, les grands singes qui sont nos cousins les plus proches sont assez difficiles à observer à l'état sauvage, l'état où ça serait intéressant justement de savoir de quoi ils parlent quand ils se communiquent entre eux. Donc on a beaucoup moins de connaissances là-dessus, c'est vrai. Mais je pense que de toute façon, c'était une question que vous posiez, c'est quoi le langage, quelles sont ses spécificités par rapport aux autres systèmes de communication animaux. Je pense ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure sur le fait que la narration, c'est-à-dire la fonction narrative du langage, était une de ces fonctions-là qui était vraiment spécifique du langage humain.
Donc narrative et argumentative alors.
Alors, justement, Jean-Louis fait la différence entre les deux et à juste titre. Hein. Vous avez d'une part l'idée de la narration. La narration, c'est la capacité pour un humain de raconter quelque chose qui s'est produit soit précédemment ou qu'il voudrait qu'il se produise ou dont il a rêvé qu'il se produisait ou qu'on lui a raconté qu'il s'est produit, etc. C'est-à-dire donc d'être capable de pouvoir faire surgir une nouvelle scène avec de nouveaux acteurs devant les yeux de son interlocuteur et de la faire vivre dans le temps, hein, temporellement. C'est pas simple du tout à faire. Les langages informatiques dont vous allez parler en fin d'émission, vous verrez à quel point ils ont de la difficulté dès qu'il s'agit d'exprimer de la temporalité. Alors que les langues humaines sont absolument incroyables pour ça. On est capable de dire dans une seule phrase, de plonger l'interlocuteur dans un instant donné, de parler du passé de cet instant, du futur de cet instant qui est notre passé à nous, etc. D'en parler comme quelque chose qui se déroule, quelque chose qui se répète, quelque chose qui a toujours eu lieu, etc. Quand on essaie en informatique de faire des logiques temporelles, des logiques modales pour essayer d'exprimer toutes ces choses-là, on a beaucoup de mal. Donc les langues sont admirablement faites pour ça. Et effectivement, la fonction narrative en question on peut penser qu'elle a été à une des origines de cette complexification des premiers systèmes pour aboutir à la complexité de nos langues. Alors, Jean-Louis disait tout à l'heure, ce qu'on raconte, c'est les choses nouvelles, les choses qui sont pas connues, dont on a envie que les autres les sachent, parce qu'on veut être un bon informateur. Il y a autre chose. On raconte aussi beaucoup d'histoires qui sont très connues et qu'on raconte tout le temps, toujours les mêmes, etc. C'est par exemple les mythes, les contes pour enfants, etc. Donc, il y a aussi tout un autre aspect de la narration qui sert à nous ancrer dans des règles sociales. Pourquoi nous sommes des Français ou des Italiens ou des... Parce que nous avons telle histoire et qu'avec telle histoire, nous considérons que nous avons une telle échelle de valeur et que cette échelle de valeur, nous la renforçons tous les jours en racontant l'histoire de notre nation, etc. Et ça, c'est vrai de toutes les sociétés primitives. Alors, le deuxième point que vous évoquez, c'est la fonction argumentative. Elle aussi, elle nécessite tout cet appareillage de la langue pour faire des si, alors, etc. Mais je vais laisser Jean-Louis en parler.
Jean-Louis Dessalles, parce que là, c'est vrai qu'on sent aussi qu'on est au cœur de ce qu'on appelle les mécanismes de régulation sociale, non ? C'est-à-dire que les animaux, cette régulation pour les animaux s'effectue au niveau biologique. Par contre, les hommes mettent en place tout, à la fois une langue qui se complexifie et puis des règles culturelles. C'est du socio-culturel. Oui. Jean-Louis Dessalles.
Alors, la question, donc cette double question de savoir pourquoi nous racontons des histoires et pourquoi nous argumentons, nous entrons là vraiment dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de consensus. C'est-à-dire que la communauté scientifique n'est pas d'accord.
Voilà.
Donc, ceci dit, même dans ce studio, je pense qu'il n'y a pas de consensus. Même entre Bernard et moi, nous nous connaissons très bien et nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'on peut dire. Mais quand même, nous sommes d'accord sur cette dichotomie, sur l'importance de la fonction narrative. Une des questions qui se pose, puisqu'on nous contraste avec le chimpanzé ou enfin, les espèces de primates sœurs, c'est pourquoi nous le faisons et pas eux. Et si on compare quantitativement ce que nous faisons chaque jour avec le langage, ça a été fait par un primatologue qui s'appelle Robin Dunbar, qui s'est amusé à comparer le temps qu'on passait à parler avec le temps que passaient les chimpanzés à s'épouiller. Vous savez, vous avez déjà vu les images.
Oui, voilà. Très bien, tout le monde a ça en tête.
Et donc, il dit, mais c'est la même fonction sociale. Mais pourquoi l'un a remplacé l'autre ? Moi, je pense à autre chose. Chez les chimpanzés, surtout les mâles chimpanzés, n'arrêtent pas de montrer leurs muscles, de faire des démonstrations de force. Dans notre espèce, c'est beaucoup moins vrai. En revanche, nous faisons des démonstrations, chaque fois que nous prenons parole ou presque, de notre capacité informationnelle, la capacité à savoir avant les autres, à avoir des scoops. Alors, il n'y a pas que les journalistes qui ont des scoops. On a des scoops dans la vie quotidienne vis-à-vis de ses amis. Tu sais pas ce qui est arrivé hier soir, etc.
Donc, ça veut dire que le langage donne un avantage.
C'est ça la question. Quel est l'avantage ? On est certain qu'il donne un avantage à celui qui parle. Mais là, on n'est pas d'accord. C'est savoir lequel c'est. Et une des façons de voir, c'est que dans notre espèce, on vante ses capacités informationnelles là où les chimpanzés feront autre chose. Ils vanteront leur fidélité par l'épouillage ou ils vanteront leur force musculaire en faisant des démonstrations bruyantes. Donc là, voilà, là, on a une vraie question qui interpelle les éthologues. C'est-à-dire, on aimerait bien que les éthologues regardent notre propre espèce avec leur regard d'éthologue pour dire, mais pourquoi font-ils ça 15 000 mots par jour, 6 heures par jour, qu'est-ce que c'est que ce comportement et comment s'inscrit-il dans une perspective darwinienne? Donc voilà un petit peu le regard nouveau qu'on a depuis quelques années, que nous avons, Bernard et moi, avec des réponses différentes, mais c'est voilà, le genre d'interrogation moderne sur l'origine du langage.
Bernard Victory, en mot de la fin, est-ce que vous suivez effectivement ce que vient de dire Jean-Louis Dessalles, c'est-à-dire que beaucoup d'espoir mis dans les travaux de recherche concernant les singes, ça peut faire évoluer nos connaissances. Ah. Parce qu'on n'a pas parlé, mais on aurait pu aussi parler plus longuement de la génétique. On a parlé à un moment de la découverte d'un gène FOXP2 qui pourrait avoir des effets sur les déficiences du langage. Enfin, on attend beaucoup de choses encore en ce domaine.
Absolument. Et comme le dit Jean-Louis, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce domaine, ce n'est pas tant le consensus, c'est aussi de pouvoir confronter différents scénarios. Par exemple, les gens qui travaillent sur le FOXP2, etc., sur ces gènes, ont une vision très génétique de l'origine du langage, de son acquisition, etc. Moi, j'ai plutôt une vision plutôt fonctionnelle. C'est parce qu'on en a eu besoin que c'est arrivé. Jean-Louis se situerait plutôt entre les deux, parce qu'à la fois, son côté darwinien jusqu'au bout dans la construction progressive du langage le pousserait à donner un rôle plus important à la génétique, mais dans une optique darwinienne dans laquelle les fonctions sont importantes. Donc vous voyez, on a plein d'idées différentes que l'on peut confronter Ça a un double avantage. D'une part, ça montre qu'il peut y avoir des explications rationnelles à l'origine des langues, et ça, c'est très important, hein, à une époque où le religieux ressurgit et où on pourrait penser qu'en dehors du religieux, on ne peut pas comprendre. On a des explications rationnelles, et ces explications rationnelles, en les confrontant, ça nous pose les grandes questions. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le côté inné, le côté acquis, l'individuel, le social? Bref, toutes les grandes questions que l'on se pose, on peut se les poser à partir de l'origine du langage.
Merci à tous les deux, Jean-Louis Dessalles et Bernard Victory. On va suivre justement les réponses que vous pourrez nous apporter dans les mois, les années à venir sur ces grandes questions. Je rappelle le livre que vous avez commis avec Pascal Pic, « Les origines du langage », sorti aux éditions du Pommier. Il faut aussi citer le livre de Derek Bickerton, « La langue d'Adam », paru chez Duno avec une préface de Jean-Louis Dessalles. Et puis le très bon numéro des cahiers de Sciences et Vie qui est sorti à la rentrée 2010, août-septembre 2010, sur les origines des langues et qui va vraiment très loin dans le détail, la richesse de cet univers. Merci bien sûr à Olivier Écruveillé. Rendez-vous donc à l'Odéon le 24 janvier, 20h, partenariat France Culture d'ailleurs, et puis dans la Marche des Sciences, très bientôt à nouveau à nos côtés. Toutes ces références, vous les retrouverez sur le site franceculture.com, la rubrique émission, la Marche des Sciences. Mais restez avec nous parce qu'on poursuit tout de suite notre route dans cet univers des langues.
O, E, A, U, E, A, I. O, E, L'O, G. O, E, loge, E, je suis logé. On était donc logé dans l'eau. Dans mon lot, je mens. Je mens égale je mange. Dans mon lot, je mens. Dans mon logement. Le premier lot était un lieu. Dans l'eau, chacun y avait son lot. Auberge, au pluriel, O, A, U, X, berge. Auberge, à l'auberge. L'auberge était donc sur la berge des eaux. O, tiré, C, E, E, en haut. C'est en océan, je suis dans l'océan, dans l'océan. Les ancêtres nomment océan l'eau, où il se tarde d'abord. Ce, o, tiret, ce, sauce. La première sauce était un bouillon, et on nomme toujours bouillon l'eau bouillonnante. En sauce, il était en société.
Merci Olivier Cruveillé. On va comprendre tout de suite pourquoi vous venez de nous livrer un extrait du livre « La grande nouvelle » de Jean-Pierre Brisset. Mais j'accueille tout de suite Gérard Berry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes informaticien, directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Je rappelle que vous avez été le premier titulaire de la chaire d'informatique et sciences numériques du Collège de France et donc auteur dans la collection « L'Académie raconte les sciences », auteur d'un livre intitulé « La numérisation du monde, l'informatique du XXIe siècle » expliqué à ceux qui sont nés au XXe siècle. Et alors, en nous emparant avec Olivier Cruveillé de ce texte-là de Jean-Pierre Brisset, qui était un auteur du XIXe siècle, qui en fait était un fou littéraire, comme on dit, un compagnon de Breton dans la démarche, dans la manipulation des mots, dans la recherche comme ça du travail autour du sens. On s'est dit, mais est-ce qu'aujourd'hui on pourrait confier ça à un ordinateur ?
De fabriquer des choses comme ça, non, heureusement les hommes sont... On peut confier des choses à des ordinateurs. J'ai un ami qui est un grand logicien, Gérard Huette, qui écoute peut-être, qui a donné comme examen à ses élèves la constitution d'un générateur automatique de contrepétrie. Donc ça peut se faire, mais la langue est... Il y a des différences tellement gigantesques entre les hommes et les ordinateurs. Les langues, moi je suis linguiste d'ordinateur, si on veut. Mon métier est de faire des langages, mais ce n'est pas du tout la même chose. Un ordinateur est un objet d'une stupidité absolue, une très grande vitesse. Un homme, c'est l'inverse. Donc quand on parle à un ordinateur, quand on essaie de faire des choses à un ordinateur, il ne peut faire que des choses parfaitement stupides, très vite, en très grand nombre. Donc toutes les langues associées aux ordinateurs ou tout ce qu'on essaye de faire avec les langues est quand même à la base quelque chose dans lequel l'interlocuteur est totalement stupide. Donc c'est assez difficile. Mais on peut faire des choses. Il y a beaucoup de travaux maintenant sur Internet, sur les langues. Un des travaux intéressants a été fait par François Bourdoncle, qui était le créateur du premier moteur de recherche européen, Exalead, qui a beaucoup travaillé il y a longtemps sur les mots composés. Les mots composés, il y en a énormément. Pomme de terre, grand homme, qui n'a rien à voir avec homme grand. C'est des mots composés. Il y en a beaucoup dans la langue et il a montré qu'on pouvait les comprendre très bien, les détecter dans les textes sans comprendre la langue, pas uniquement par des filtrages statistiques. Donc on peut faire des choses. avec les ordinateurs comme outil, hein, pas comme générateur de langue.
Oui,
et
bien sûr.
Quand on crée des langues pour les ordinateurs, ce sont des langues extrêmement spécifiques.
Alors justement, parce que vous évoquez ça dans ce livre audio, je précise quand même qu'on ne peut l'acheter que sur Internet, sur le site de Vive Voix. Donc plus de 70 minutes de récit de cette aventure de l'informatique que vous nous livrez. Alors vous partez bien sûr, vous commencez aux origines, hein, en nous expliquant d'où vient cette science informatique, née dans les années 30, les premiers informaticiens, les premiers ordinateurs. Et puis bien sûr, à un moment, vous évoquez notamment le ou les langages informatiques.
Oui. Alors, il s'est créé un certain nombre de centaines, milliers de langages informatiques, milliers de dialectes. Il y a en fait une petite vingtaine de principes. Les langages informatiques sont nés en fait des langages mathématiques. Le langage mathématique, c'est une vieille histoire, puisque par exemple, les Indiens, dans les années 500-600, se posaient ces problèmes. Il y a des très belles phrases d'un livre de Brahmagupta qui connaissait très bien les nombres négatifs et qui dit « un gain multiplié par un gain est un gain, une gain multipliée par une dette multipliée par une dette est un gain ». Donc c'est des problèmes de langage qui ne sont pas les mêmes que pour la narration, parce que c'est des langages qui essayent d'être précis. Et ça, c'est très difficile. Et le langage mathématique a mis des siècles à exister. Il n'est vraiment solide que depuis le XXe siècle. Et par exemple, on parlait tout à l'heure du temps. Bon, ma spécialité, c'est les langages qui parlent du temps. Eh bien, c'est très compliqué à faire, mais on se rend compte aussi que les hommes sont extrêmement peu précis. Ils se racontent des choses, mais de façon pas du tout précise. Et moi, qui suis un peu pataphysicien, enfin, pas un peu d'ailleurs, je suis régente d'informatique au collège de pataphysique, j'ai fait une collation des expressions qui parlent, par exemple, du temps. Et sur les temps courts, il y a des choses merveilleuses. Par exemple, plus le temps est court, plus l'expression est longue. Donc on dit « je vais le faire illico presto » ou on dit « je vais le faire en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ». Qui est une expression complètement poétique et justement d'une précision très bizarre. Donc en informatique, on a besoin, comme en mathématiques, d'un langage extraordinairement précis, qui n'obéit pas du tout aux mêmes contraintes. Les mêmes gens ont travaillé dessus. Chomsky est un des créateurs des langages informatiques.
Oui, Noam
Chomsky. Que dans les structures, il y a des choses communes, mais ce sont des langages simples.
Et en tout cas, vous nous livrez de façon simple, dans un langage clair et limpide pour tout le monde. Dans ce livre audio, vous nous livrez vraiment toute cette aventure en précisant d'ailleurs, j'ai relevé que la science-fiction était souvent en dessous de la réalité par rapport au progrès fulgurant de l'informatique, que le public, en France notamment, reste souvent surpris parce que la France a du retard. Et puis surtout, vous soulevez un autre problème. Vous parlez bien sûr de l'informatique qui révolutionne les sciences, mais vous expliquez très clairement qu'il y a un problème qui reste. C'est l'absence d'enseignement du sujet. Il faut combattre l'ignorance et donc cette dépendance.
Oui, absolument. L'enseignement est fondamental. Il commence extrêmement tôt. Les enfants ont un enseignement extrêmement tôt de l'informatique. On voit à l'heure actuelle des enfants de 2 ans qui bougent leurs doigts sur les photos en papier pour essayer d'agrandir la tête, par exemple. Donc ça, c'est un langage. Donc, c'est un langage gestuel, mais ça fait partie du langage. Et à l'heure actuelle, les enfants naissent dans l'informatique, en sont totalement dépendants. Ils ont un rôle uniquement de consommateur. Et en France, on conçoit ça très souvent comme de la consommation de ce qui est fait ailleurs, sans comprendre que l'informatique est un énorme domaine de création et un énorme domaine d'études linguistiques d'ailleurs aussi. Et que il faut jouer dans le domaine des créateurs si on veut être là demain.
Voilà,
ce qui n'est pas tout à fait garanti à l'heure actuelle.
Non, mais je suis sûre que vous allez militer largement pour ça et que ce sera une partie gagnée. En tout cas, je renvoie nos auditeurs à votre livre audio qu'on peut trouver sur le site des éditions de Vive Voix. On mettra le lien, bien sûr, sur notre site franceculture.com. Le livre audio s'appelle « La numérisation du monde » et c'est dans la collection « L'Académie raconte les sciences ». Et c'est la fin de la marche pour aujourd'hui, en tout cas. Une émission préparée par Catherine Donnet avec Marie Jarros et Florence Dartois de l'INA et l'aide d'Olivier Cruveillé. Merci à Pascal Raillé pour la réalisation, à la technique aujourd'hui, Ariane Herbé. Et la semaine prochaine, nous nous intéresserons au navigateur et explorateur James Cook.